Bienvenue dans le podcast de l'initié de la bourse, la rubrique boursière du magazine Trends Tendance. Tous les mercredis, Pierre-Henri Thomas, journaliste chez Trends Tendance, vous propose un aperçu de l'actualité des marchés financiers. Ce podcast est réalisé avec le soutien de Keytrade Bank, leader incontesté du trading en ligne en Belgique.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de l'initié de la bourse. Alors, le suspense a été digne d'un polar, mais voilà, après plusieurs jours de décomptes interminables des votes, nous savons désormais qui sera le 46e président américain, même si le 45e refuse encore de reconnaître sa défaite. La victoire du démocrate Joe Biden a toutefois été beaucoup moins facile qu'annoncée. On savait que Donald Trump était un adversaire coriace et la vague démocrate annoncée ne s'est pas concrétisée. Alors c'est important pour les investisseurs car ils craignent une administration démocrate puissante qui pourrait imposer des réglementations plus sévères, remonter les taxes et les impôts. Mais comme il est loin d'être certain que les démocrates auront la majorité au Sénat et comme le Sénat est une institution clé dans le processus législatif aux États-Unis, cette crainte s'est finalement estompée. Alors, qu'est-ce que ces événements politiques ont donné sur les marchés? Eh bien, la première réaction de Wall Street à la victoire de Joe Biden a été, disons, étrange. Alors que Trump refusait de reconnaître sa défaite, alors qu'un certain chaos régnait encore à Washington, la bourse de New York a réagi positivement. L'explication, c'est que la perspective d'une combinaison d'un démocrate modéré, Joe Biden, à la Maison-Blanche et d'un Sénat relativement dominé par les républicains, devrait permettre de garder l'aile gauche des démocrates sous contrôle. D'où la bonne performance des Big Tech, qui voient s'éloigner la crainte d'une administration qui lancerait contre elle des actions pour abus de position dominante, et même soulagement aussi du côté des grands laboratoires pharmaceutiques, les Big Pharma, qui craignent moins désormais l'intervention des autorités pour freiner la hausse des prix des médicaments. Par le passé, les premiers mouvements d'un marché, juste après l'élection présidentielle américaine, ne donnaient pas nécessairement une bonne indication sur la performance des marchés dans l'année ou les années qui suivaient. Il suffit de regarder à deux reprises les réactions des bourses après l'annonce de la victoire de Barack Obama en 2008 et en 2012. Alors, Obama était un mal-aimé de Wall Street et en 2008, l'indice Standard & Poor's 500, le principal indice boursier américain, a chuté de 5%, soit 2000 milliards de dollars de valeur boursière partis en fumée au lendemain de l'annonce de sa victoire. Pourtant, un an plus tard, Wall Street était en hausse de 12%. Même scénario de nouveau, en 2012, une chute initiale de 3,6% juste après l'annonce de la réélection d'Obama, mais ensuite une hausse de 26% un an plus tard. Et que dire de la réaction de la bourse à la victoire extrêmement surprenante de Donald Trump contre Hillary Clinton il y a 4 ans. Au départ, Wall Street n'a pas aimé l'arrivée de cette personnalité insolente et imprévisible à la présidence, mais elle a changé d'avis très rapidement. L'année boursière 2007 a même été carrément fantastique, portée par la réforme fiscale de Donald Trump et donc une importante réduction de l'impôt sur les sociétés. Remontons plus loin encore dans le temps. Lors des 23 élections depuis 1928, l'indice Standard & Poor's a chuté 16 fois après les résultats. Mais ensuite, 10 fois sur 16, cet indice était sensiblement plus élevé un an plus tard. Les investisseurs réagissent donc impulsivement à un résultat, surestiment généralement l'impact du gagnant sur le marché, et aujourd'hui, cette surestimation est encore plus grande étant donné le rôle crucial joué par les banques centrales sur les marchés financiers, comme nous l'avons expliqué la semaine dernière. Alors résumons. Une première réaction positive ou négative à un résultat électoral n'a que peu ou pas de valeur prédictive, et c'est une règle qui ne date pas d'hier. La seule certitude que nous ayons ou presque est que les élections et les référendums rendent les marchés plus volatiles, plus instables. Lors des années qui voient une élection présidentielle aux États-Unis, en novembre, la volatilité est de 22% plus élevée que lors d'une année non électorale. Et pour finir, tordons aussi le cou à un canard qui voudrait que la couleur politique du président ait une influence sur la bourse. Depuis 1928, l'augmentation moyenne des actions américaines lors d'un mandat démocrate a été de 27,7%. Eh bien, c'est quasiment la même performance qui a été réalisée par la bourse sous une présidence républicaine avec une progression de 27,3%. Que le président américain soit rouge, couleur des républicains, ou bleu, couleur des démocrates, finalement, Ça n'empêche pas Wall Street de voir généralement la vie en rose.
La parole est maintenant à l'expert de KeyTrade Bank avec une analyse de l'actualité économique et financière.
L'élection américaine est terminée et cette année encore, elle aura fait mentir la grande majorité des prévisionnistes. Avant le scrutin, il semblait évident que le pire des scénarios pour les marchés serait un scénario de contestation du résultat. De fait, Donald Trump ne digère pas la nouvelle de son éviction. On peut certes espérer que son entourage parviendra à le convaincre de quitter la Maison-Blanche, mais à vrai dire, une série d'actions en justice semble une issue plus vraisemblable. Tout cela n'a pas empêché les bourses de repartir à la hausse, alors que de nombreux experts avaient prédit leur recul, ce qui prouve, si besoin était, qu'il est pratiquement impossible d'anticiper les mouvements boursiers dans un contexte d'élection. Toutes les opinions exprimées à cette occasion doivent être prises pour ce qu'elles sont, une distraction. Nous l'avons dit à plusieurs reprises déjà, ce qui importe, c'est de rester investi aussi longtemps qu'un renversement de tendance ne s'annonce. Par ailleurs, ne perdons pas de vue que nous entrons maintenant dans une période favorable aux bourses. Souvenez-vous du célèbre dicton qui conseille de vendre en mai, puis de partir. À la période mai-octobre succèdent désormais les mois de novembre à avril, souvent la meilleure plage pour investir. Nous pourrions presque dire « vendez en mai et partez », mais n'oubliez pas d'acheter en novembre. Souvenons-nous de surcroît que cette année, le printemps et l'été se sont montrés favorables à beaucoup de marchés. Peu d'indices ont en effet subi de lourdes pertes. Pour certaines actions individuelles, en revanche, songeons à Kinépolis ou à Barco, leur plongée illustre à notre avis une fois encore l'avantage qu'il y a à investir dans les trackers qui permettront de surfer sur les tendances générales. Mais revenons-en à notre tendance saisonnière. Si la bourse a bien résisté pendant une période qui n'est pas réputée spécialement propice aux actions, quels pourraient être ses résultats au cours des mois qui, historiquement, figurent parmi les meilleurs ? Nous restons donc investis en actions et nous continuons à préférer les marchés boursiers américains tout comme ceux des pays émergents. Les bourses ont du reste bien entamé le mois de novembre. Un autre indicateur dévoilé la semaine dernière renforce notre optimisme. Il s'agit du United States Crash Confidence Index, l'indice qui calcule le nombre d'investisseurs américains qui escomptent un crash sérieux. À l'heure actuelle, ce chiffre tourne autour de 90%. En d'autres termes, énormément d'investisseurs prévoient le pire. Or, rappelez-vous ce qui peut arriver quand le pessimisme règne en maître.
Bienvenue dans la seconde partie du podcast de l'initié de la bourse.
Alors, penchons-nous maintenant sur l'action Bpost. Les résultats du troisième trimestre de Bpost sont étonnamment bons et cela a d'ailleurs été salué par la bourse. Le chiffre d'affaires a augmenté de 10% à 973 millions d'euros, ce qui était plus ou moins attendu. Mais ce qu'il était moins, c'est que le bénéfice d'exploitation a presque doublé par rapport à la même période de l'an dernier. Alors, à quoi doit-on cette bonne surprise? Eh bien, surtout à une meilleure utilisation des capacités et à une plus grande efficacité opérationnelle. Bpost livre davantage de colis via son réseau spécialisé, mais aussi, et c'est important, via le réseau postal traditionnel. Alors, en quoi c'est important? Eh bien, pour faire simple, que l'on vous apporte une lettre ou un colis, le coût pour la poste est sensiblement identique. Mais les recettes pour la poste ne le sont pas. Cette utilisation du dernier kilomètre, Bpost y travaille depuis des années, mais grâce à l'augmentation récente du volume de colis, ces gains d'efficacité sont de plus en plus évidents. Alors, qui dit colis dit aussi commerce en ligne et la forte croissance du commerce sur Internet ces derniers temps aide évidemment aussi Bpost à se transformer et à passer d'une entreprise postale traditionnelle à un acteur de la logistique. Ce n'est pas la seule entreprise à le faire, comme nous l'avions déjà vu il y a quelques temps. PostNL, le concurrent néerlandais de Bpost, profite lui aussi du confinement et du boom du commerce online. Alors, pour Bpost, ces changements se reflètent évidemment dans ses résultats du troisième trimestre. Les activités logistiques contribuent désormais davantage aux bénéfices d'exploitation que le trafic postal traditionnel. L'augmentation du bénéfice des activités logistiques, plus 33 millions d'euros, a plus que compensé, et cela pour la première fois, la baisse du bénéfice du trafic de courrier, moins 3 millions d'euros. Alors de plus, Bpost a réussi à faire en sorte que la baisse de volume de courrier traditionnel n'affecte pas trop ses bénéfices. C'est que les coûts, eux aussi, ont été réduits. Une partie des coûts de tri a été facturée à la division des colis comme rémunération pour utiliser son réseau postal. À Bpost maintenant de montrer que cette marge qui s'améliore n'est pas un accident. Tout va mieux donc pour le groupe. Alors bien sûr, sur les 9 premiers mois de l'année, les bénéfices du groupe sont encore en baisse par rapport à l'année précédente. Mais il est clair que les résultats dépendent de moins en moins du marché postal qui est en déclin et sont portés de plus en plus par la vague des activités logistiques qui, elle, est en pleine croissance. Tout cela permet donc à Bpost d'améliorer ses perspectives pour l'ensemble de l'année. Au lieu d'un bénéfice d'exploitation qui avait été ajusté vers le bas à 207 millions d'euros, Bpost vise maintenant un minimum de 270 millions d'euros. Cependant, la prévisibilité de ces résultats est encore toute relative. La nouvelle vague de Covid et la fermeture des magasins non essentiels donnent un coup de fouet supplémentaire, oui, à l'activité colis, mais l'impact négatif sur l'économie dans son ensemble pèse sur le trafic postal classique. Incertitude aussi de l'impact de la cyberattaque dont a été victime Radial, la filiale américaine de Bpost. Bpost n'a pas encore chiffré ses dégâts, mais ils sont importants. Alors résumons, pour l'investisseur, Bpost reste une action relativement bon marché, qui se traite environ 10 fois ses bénéfices. Le groupe est dans un processus de changement structurel dont il devrait bénéficier. L'entreprise ne versera toutefois pas de dividendes cette année, mais elle réexaminera sa politique en la matière le 8 décembre et on peut avancer, sans trop de risques, que ses résultats d'exploitation désormais plus solides devraient lui permettre de recommencer assez vite à rémunérer ses actionnaires.
Merci d'avoir écouté le podcast de l'Initié de la Bourse. Vous trouverez plus de conseils et d'analyses de l'Initié de la Bourse demain dans les pages vertes du magazine Trends Tendance. La semaine prochaine, nous sommes de retour avec de nouvelles analyses. Ce podcast est réalisé avec le soutien de KeyTrade Bank, leader incontesté du trading en ligne en Belgique.